Bien, bonsoir à tous pour cette dernière conférence. Donc, je suis très heureux d'être de nouveau parmi vous. Alors, c'est le troisième volet d'une histoire qui nous aura mené du 18e à nos jours. Alors, évidemment, vous me direz, c'est un peu ambitieux et j'ai choisi ce biais qui prend tout son sens aujourd'hui, d'une certaine façon, avec ce mot que j'ai forgé, que je vais essayer un peu d'expliquer, qui n'est pas facile, on en parlait à l'instant, à traduire. Alors, en italien, ça va assez bien, c'est l'oltre scultura. Et en anglais, bon, ils me l'ont traduit par trans sculpture, qui me va moyennement, parce que ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire. Alors, de quoi s'agit-il? J'emprunte ce mot pour qualifier une tendance, je ne dirais pas la seule, hein, ni même peut-être la principale, mais en tout cas une tendance de la sculpture depuis les années 60, qui est à la fois, alors j'emprunte le mot, ou du moins je le forge en écho au fameux outre-noir, hein, de Soulages. Parce que Soulages nous dit, au fond, ma peinture est noire, mais je travaille avec le noir et je vais au-delà du noir puisque j'étudie la lumière. Et la lumière fut. Voilà, non, c'est bien comme ça. Et c'est vrai qu'en Occitan, vous savez qu'il est de Rodez, outre veut dire à la fois autre, hein, ce qui est différent, alter en latin, et ce qui va au-delà, donc outre. Et on fait de la sculpture aujourd'hui avec le vieux concept de sculpture, avec ce que cette histoire de la sculpture nous a légué. On va au-delà. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, à la différence de mon éminente collègue, qu'on voit ici assez jeune, Rosalind Krauss, elle, il lui paraissait que si on gardait le mot sculpture, ce qu'elle a proposé quand même de faire, il fallait lui ajouter un complément. Et c'était « Sculpture in the expanded field », c'est-à-dire « sculpture », qu'on peut traduire en français, « in the expanded field », « sculpture dans un champ élargi ». Et dans son idée, alors elle fait souvent des schémas, alors ça le mérite parfois de ne pas nous embrouiller. Moi, je ne saurais recommander trop aux étudiants. Moi, je leur dis tout le temps, un bon schéma vaut mieux que de longs discours. Et peut-être que j'aurais pu faire ces trois conférences en trois schémas. Mais ça demande vraiment beaucoup, beaucoup plus de travail. Alors, elle a essayé de montrer ça, au fond. Dans son esprit, la sculpture serait, au fond, prise dans une tentation qui serait à la fois celle de l'architecture, vous voyez, et du paysage. Et donc la sculpture se trouverait dialectiquement entre la construction de sites. Vous avez en haut celui qui est un de ses favoris, Robert Morris, Bob Morris, The Observatory, l'observatoire, tout à fait référé aux grands éléments mégalithiques. Et puis, d'autre part, du même Maurice, les L-beams, à savoir les poutres en L qu'il avait présentées à la Green Gallery en 64, si j'ai bonne mémoire. Donc 68 pour l'observatoire, 64 pour les L-beams. Ce sont des poutres qui sont de dimensions exactement équivalentes. Ce que vous pouvez vérifier en regardant les cartels, mais qui vous apparaissent phénoménologiquement, en référence à Merleau-Ponty, c'est-à-dire que, en tant que phénomène, elles vous apparaissent différentes. Et donc, c'est la position de l'observateur, vous voyez que celle qui est devant nous, alors la photographie a encore ce fait d'accentuer les distorsions, qui sont dues à notre engagement. Il est impossible de regarder ces sculptures sans s'y trouver engagé. et percevoir donc une dimension qui est une dimension phénoménologique et qui n'est pas la dimension métrique. Bon, Robert Morris est en train de redécouvrir un peu platement ce que Giacometti avait fait, à mon sens, bien avant, mais c'est un Américain et il faut qu'il le fasse avec la géométrie, avec le cube, voilà. Alors, moi, il me semble qu'en effet, il y a une grande partie de la sculpture que vous connaissez, qui peut être qualifiée de « in the expanded field », qui a proposé des constructions d'espace et qui a proposé des promenades au sein de la sculpture, c'est-à-dire un engagement au sein d'une promenade, par exemple. Alors, je vous en montre deux exemples, et puis après, je vous dirai pourquoi je trouve que Rosalind Krauss a raison de maintenir le mot sculpture, et je vous dirai aussi pourquoi moi je propose plutôt que in the expanded field, qui a tendance à nous montrer que la sculpture va vers d'autres arts, vers l'architecture, vers vers le, on va dire peut-être vers le mobilier, parce que ça peut faire penser aussi au design. Hein. Vous voyez, elle, dans son esprit, la sculpture s'étend géographiquement, elle sort de la galerie, elle va vers le land art, elle va aussi vers le mobilier, mais elle reste quand même dans cette idée d'un élargissement à partir d'une base spatiale. Et moi, tout ce que je veux montrer dans Outre Sculpture, c'est que, à mon sens, la sculpture des années 60 à nos jours, elle réintègre, elle réinsère, cette fois-ci de façon un peu plus complète que ne l'avait fait la sculpture moderne, c'est-à-dire la sculpture de 1906 à 1960, en gros, elle réintègre des modes de sculpter qui avaient été petit à petit écartés, je vous l'ai dit, au cours de la constitution de la théorie et de la pratique des académies de sculpture, encore renforcée à mon sens par la sculpture moderne, c'est-à-dire qu'on a écarté tout ce qui était fétiche, pour le dire simplement, on a écarté tout ce qui était mécanisme, machine, automate, et on a écarté de façon également systématique tout ce qui venait du fond de l'art populaire, les statues des processions, et même les statues portées, les rituels, etc. Donc, à mon sens, Rosalind Krauss a raison de dire la sculpture s'est déplacée vers l'architecture, elle s'est déplacée vers l'urbanisme, elle s'est déplacée vers le design, mais je pense pas non plus avoir tort en désignant aussi le fait que la sculpture contemporaine a réintégré des modes qui lui étaient propres et qui petit à petit ont été finalement écartés au profit de ce que nous avons aujourd'hui dans nos musées, c'est-à-dire des formes, souvent d'ailleurs référées à l'être humain, à la figure humaine, etc., au mimétisme et autres. Bon, c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Alors, je vous l'ai dit, c'est pour un livre qui est en cours d'écriture, donc vous pardonnerez l'aspect encore un peu expérimental. Ça devrait être fini l'année prochaine pour Azan. Donc le titre, ça sera « Outre sculpture ». On pourra le traduire en italien, mais en anglais, il va falloir qu'on trouve autre chose parce que ce « trans-sculpture » me plaît pas beaucoup. Bon, sinon, on se passera des anglais, hein, mais c'est quand même dommage. Bon, alors, je reviens à mon affaire. C'est vrai que des sculptures comme celle-ci, en haut, gauche et puis sommet, les sky spaces, donc les espaces de ciel de James Turrell. Vous entrez, vous le savez, dans des habitacles qui sont souvent ménagés à côté du musée, à côté du lieu d'exposition. Hein, vous voyez là deux collègues qui ont la tête dressée et au-dessus, vous voyez le ciel réel d'une certaine façon, une sorte d'observatoire, et vous avez en dessous, alors très connue pour vous, une des sculptures promenades de Richard Serra. C'était au moment de sa grande exposition dans le jardin du MoMA à New York, il y a quelques années. Moi, ce qui me frappe, et c'est pour ça que je donne raison à Rosalind Krauss de maintenir le mot sculpture, alors même qu'en effet, je ne suis pas, et vous non plus, je ne suis pas naïf, je sais bien que dans les années 60, et Florence Jaillet qui m'accueille ici le sait bien puisqu'elle a fait sa thèse sur Daniel Buren, il n'était pas question dans les années 60 qu'un artiste parle encore de sculpture. Il l'a dit quand même, il a parlé de sculpture, parfois plutôt d'in situ, on parlait de travail, les Américains parlaient de pieces, voyez. Donc souvent, on essayait d'éviter, on parlait de performance, bien sûr, on parlait d'installation, et le mot même sculpture était tombé un peu en désuétude d'une certaine façon. Mais quand on regarde bien, ce mot s'est quand même maintenu. Alors je vous en montre quatre exemples qui me paraissent assez significatifs. Je ne sais pas ce que ça donne exactement sur l'image, mais en haut à gauche, vous avez une télésculpture d'un artiste que je trouve un peu trop disparu de nos écrans aujourd'hui, si on peut dire, qui est de Takis. Takis était un artiste grec né au milieu des années 20, si c'est maintenant un monsieur âgé, qui est retourné vivre d'ailleurs en Grèce, mais qui avait créé ces sculptures aimants, voyez, qui permettaient, il rivalisait avec Yves Klein pour la gloire d'avoir créé la première sculpture suspendue dans l'espace grâce à la force magnétique. Et vous en voyez, et lui il parlait bien de télésculpture, même si quand vous vous baladez sur l'esplanade de la Défense, vous avez aussi, c'est la chose la plus connue que vous puissiez voir, vous avez tout à fait en fond, vous avez ce qu'il appelait des signaux. Donc il y a aussi ce mot-là. Mais là, nous sommes dans les télésculptures. Pensons que deux artistes comme Gilbert and George n'ont pas hésité toujours de parler de living sculpture, sculpture vivante, Singing Sculpture, donc vous voyez ici leur fameuse performance où ils se transmettent alors qu'un magnétophone diffuse une comptine anglaise, ils se transmettent une canne, mais l'idée de Living Sculpture, le fait que l'artiste a, par son attitude, il est sur un socle, il prend place simplement, c'est une sculpture de chair, c'est une sculpture pygmalionisée si l'on veut, elle est devenue chair, quoique dans ses attitudes on est plus du côté du mime, dans leurs attitudes on va assez lentement, et puis il y a cette intégration du son. Mais on parle de living sculpture. Et récemment nous a été administré par un artiste qui est souvent bien inspiré, c'est pas toujours le cas, mais qui aime la sculpture, c'est Xavier Veillant. En bas à gauche, j'ai pris cette plus célèbre image de son exposition à Versailles, avec le fameux carrosse, qui est tout à fait dans l'esprit d'un sculpteur. Je dirais de la grande tradition de la sculpture animalière. Vous savez que du même Xavier Veillant, vous avez une magnifique sculpture qui est au Centre Georges Pompidou qui s'appelle le rhinocéros. C'est un rhinocéros rouge, mais alors vraiment rouge, tout simplement parce qu'il a été passé à la peinture de voiture. C'est une des pièces que j'avais mis dans la grande galerie des sculptures, parce qu'elle m'a toujours impressionné, ce grand rhinocéros qui est en effet pleinement dans la tradition animalière. Il a des formes rondes à la Pompon, mais en même temps, le matériau est clairement un matériau moderne, c'est la peinture automobile. Et là, vous voyez que le fameux carrosse, qui est en somme une plongée dans le passé, puisque ça évoque évidemment la fuite à Varennes, hein, Louis XVI et Marie-Antoinette qui s'enfuit pour Varennes, mais on est dans la cour, c'est une sorte de reenactment, de manière de revivre cet élément, mais la sculpture est traitée, vous le savez, d'abord à travers les pixels de l'ordinateur, puisque c'est une conception assistée par ordinateur, et au lieu d'ensuite, comme le font ceux qui conçoivent des modèles pour l'industrie, au lieu ensuite de gommer et d'arriver à un degré de définition qui va permettre d'avoir un parfait modelé, eh bien, volontairement, Xavier Veillant arrête la forme au moment où la pixelisation est encore apparente. Donc on a une sculpture qui, d'une certaine façon, vraiment répond à la définition de la sculpture. C'est bien un solide dans l'espace, hein, c'est la définition du Larousse, c'est bien un solide dans l'espace, mais ce solide est en même temps la concrétisation, l'incarnation d'une image virtuelle, puisque c'est une image obtenue par écran et une image qui insiste sur le fait que toute approche n'est qu'asymptotique à la réalité. Aucune approche artistique ne peut rivaliser avec celle avec la réalité elle-même. C'est toujours une approche asymptotique. Et certains autres artistes, alors je ne fais pas de hiérarchie, je les montre, comme Alain Quirilly par exemple, ont même retrouvé un autre mot plus ancien que celui de sculpture, puisque dans ses sculptures, dans ses œuvres, il parle de statuaire. Hein, du latin sto sta stare, je me tiens debout. Et là, je vous montre une pièce qui est en fer forgé de 1991 qui s'appelle Transfiguration. Donc, on voit bien qu'il y a peut-être chez les artistes une tendance à capitaliser ce mot de sculpture, le garder, et l'interroger, l'ouvrir comme vous ouvrez avec un ouvre-boîte quelque chose que vous voulez digérer, dont vous voulez vous servir. Mais ils veulent pas s'en détacher. Moi, je me souviens, j'avais fait faire une étude par les étudiants. Ils étaient allés dans les ateliers et ils avaient posé la question aux gens, est-ce que ce mot de sculpture vous évoque encore quelque chose ? Beuys parlait de sculpture sociale, social sculpture. Mais il avait maintenu ce mot-là, qui est une sorte de référent. Alors, évidemment, chez Quirilly, il y a l'idée qu'on pourrait, et à mon sens, peut-être là, on entrerait dans quelque chose qui serait plus restrictif, il admettrait que seul est sculpture ce qui est réalisé véritablement par les mains de l'artiste, c'est-à-dire en forgeant, en modelant. Et bien sûr, il aurait récusé le voisinage que je lui fais avec Xavier Veillant. Mais c'est le privilège de l'historien de l'art que de pouvoir se dire que peut-être des choses sont bien dans une œuvre et bien dans l'autre, même si ce ne sont pas les mêmes, hein, mais qu'on peut les apprécier. Alors, je vais essayer ce séminaire, c'est pas tout à fait un séminaire, faut qu'on là je suis là pour parler et pas pour vous écouter, quoi qu'on posera des questions à la fin, hein, puisqu'on a le temps. Ce coup-ci, il y a pas de Woody Allen demain, et puis de toute façon il n'était pas venu, et je le regrette bien, je vais essayer de vous montrer comment bien sûr la sculpture a réintégré à partir des années 60, et c'est peut-être un des legs aussi de cette œuvre étonnante qu'on ne saura jamais vraiment comment qualifier, étant donné de Marcel Duchamp. Comment la sculpture contemporaine a réintégré à la fois l'art populaire, par lequel je vais commencer, ensuite le fétiche et d'une certaine façon l'art extra-occidental, et enfin la question de la machine, sur laquelle je terminerai. Je terminerai sur les robots, qui en ce moment m'intéresse beaucoup, comme je vous l'ai dit, et j'espère que peut-être dans 2 ans, peut-être vous me réinviterez au moins pour une séance, pour une autre exposition, mais qui n'est pas encore signée, mais où il y aura question de sculpture et de robots. Alors j'en dirai quelques mots tout à fait à la fin. Alors premièrement, première réinsertion qui cette fois-ci me paraît beaucoup plus engagée, beaucoup plus nette que chez Schwitters, par exemple, ou que chez les artistes du début du siècle, à savoir un réinvestissement très fort chez Marcel Duchamp. Je ne dis pas que Marcel Duchamp ne doit pas être analysé comme un grand artiste ayant proposé avec le ready-made une question nominaliste. Qu'est-ce que l'art ? Je dis que par ses actes, et notamment par ce qu'il nous lègue, à titre posthume, puisque cette œuvre était dans son atelier et que jamais il ne l'avait exposée. Elle s'appelle « Étant donné 1, la chute d'eau 2, le gaz d'éclairage ». Elle est présentée, vous le savez, aujourd'hui au musée de Philadelphie, où Duchamp, se rendant compte que son œuvre était peu nombreuse, il avait peu produit, il avait beaucoup joué aux échecs, mais peu produit. Donc il a eu un moment où il a senti qu'il fallait rassembler ses œuvres. Et c'est à ce moment-là qu'il a voulu sa collection à Philadelphie. C'est à ce moment-là aussi qu'il a accepté des multiples, ceux qu'a édité Schwartz en 62 et en 64, et puis qu'il a fait, vous le savez, les boîtes en valise, qui sont des miniaturisations de son œuvre. Il avait le sentiment que la rareté de son œuvre justifiait, vous savez, il y a des gens qui produisent énormément. Alors il y en a un peu partout, on finira par quand même en garder un peu, tandis que les artistes rares, eh bien, il faut qu'à un moment donné, ils pensent à un lieu qui soit un lieu où l'œuvre soit conservée. Mais cette œuvre aussi, elle est tout à fait singulière, puisque là, vous la voyez, bien sûr, on ne peut jamais la voir comme ça, hein, à gauche. On la voit comme ça, à droite. C'est-à-dire que nous entrons à Philadelphie et nous voyons une porte de grange. La plupart des gens, d'ailleurs, passent devant, hein, parce qu'une porte de grange, ça n'a jamais... Même si on vous dit que c'est une porte de grange de Cadaquès, parce que Duchamp avait une maison juste à côté de Dali à Cadaquès, et la porte de étant donné, la porte de grange est une porte qu'il a fait ramener de Cadaquès, grande porte en bois, et il y a un trou. Et dans ce trou, vous voyez ce mannequin partiel. Sorte de référence à la statue de la liberté sur un lit de branchage, avec derrière, on le voit mal, une petite cascade, qui est une cascade qui a un petit moteur et qui bouge exactement. Alors, j'en ai vu comme ça au musée des arts forains à Paris. Ce sont des petits moulins qui peuvent permettre, comme ceci, avec du coton et un petit éclairage, de faire croire au passage de l'eau. Hein. Et on voit que tout l'ensemble, qui est construit un petit peu comme une baraque de foire ou comme un pipe-show, rejoue dans l'art contemporain la thématique du diorama, c'est-à-dire la vision à suspense, à surprise, qui a toujours été au cœur des dispositifs forains. On a là, au cœur même, chez l'artiste peut-être le plus fabuleusement glosé, et parfois de façon incompréhensible, il faut bien le reconnaître, mais il l'a voulu, hein, donc Il faudra quelques siècles avant que ça se clarifie un petit peu. Puis c'est bien que l'art reste une énigme du sphinx. Mais là, je crois qu'il montre très clairement qu'il a cette passion, et il l'a toujours eu, pour les baraques de foire, pour les... il l'avait montré dans La Mariée, pour les jeux de massacre, et là, pour ces sortes de dioramas dans lesquels une image dérobée, furtive, érotique, peut être glanée. Alors, je crois qu'on peut tracer un sillage. Donc, l'œuvre est restée dans... Elle a été commencée, on pense, dès le milieu des années 50, et elle est restée inachevée, donc à sa mort en 68. Et si j'ose dire, dans la brèche, excusez-moi la métaphore facile, se sont engouffrés toute une série d'artistes absolument fondamentaux de nos dernières années, à savoir, bien sûr, dès 1966, au musée de Stockholm, au Moderna Museet de Stockholm, cet extraordinaire On, en suédois, puisque nous sommes à Stockholm, le directeur du musée, c'est bien sûr Pontus Hultén, et très ami des artistes. C'était à l'époque où les conservateurs n'hésitaient pas à mouiller la chemise et à travailler avec les artistes, tout en gardant leur côté critique. Hein. Mais il avait participé à cette... il m'avait raconté qu'il avait d'ailleurs beaucoup de mal, parce que Tinguely, au début, ça devait être fait avec Martial Reiss, par exemple. Et Martial Reiss allait représenter la France à la Biennale de Venise, donc il les a laissés tomber. Du coup, Tinguely voulait partir en voiture à Moscou, en Russie, donc il n'y avait plus rien. Alors donc ils ont eu l'idée de faire cette On qu'ensuite peint Nikita Saint-Phalle, que vous voyez. Et donc il s'agit d'une gigante, ça veut dire elle en suédois, j'ai oublié de le dire, On, ça veut dire elle. Donc on voit le principe, qui est un principe post-Duchampien, mais à l'époque, qu'est-ce qu'on savait, hein, il savait quand même des choses sur cette pièce, mais personne ne l'avait véritablement vu dans un espace d'exposition, puisque Duchamp va mourir 2 ans plus tard, en 68, et on va avoir cette sorte de passage de témoin avec cette jeune génération, Nikita Saint-Phalle et Jean Tinguely, que vous voyez là. Donc c'était à l'intérieur, il y avait un petit cinéma qui présentait Luftarbeiter de Greta Garbo. Il y avait un planétarium, il y avait une terrasse, on pouvait monter sur une terrasse. Il y avait un espèce de broyeur dans lequel vous pouviez recycler ce que vous aviez dégusté. Vous voyez, on entrait de façon très... très stoïque, après avoir lu le journal de l'exposition, qui existe toujours, et dès que le feu se mettait au vert, hein, puisqu'il y avait une sorte de queue, et on entrait dans la On, avec son côté un peu gargantuesque. Il y avait un banc des amoureux, dans un coin assez sombre. Alors on pouvait être sûr que on pouvait avoir des confidences très intimes, mais il y avait des micros qui permettaient de diffuser au bar tout ce qui s'était dit d'intime. Ça se savait assez vite, ce qui fait que ça réfrénait toute volonté de déclaration, sauf celle qui était un peu exhibitionniste. Et voilà, donc je passe, mais il y a un livret, il y a ce journal extraordinairement bien fait qui met en perspective, depuis Gargantua, tous ces géants et tout ce legs de l'art populaire. Alors, avec Tinguely, comme vous le savez, l'art populaire rencontre en même temps, c'est ça qui m'intéresse dans son œuvre, rencontre en même temps la machine. Et là, je vous montre une image que j'aimerais bien qu'elle soit comme ça dans le livre, puisqu'on a d'un côté le fameux cyclope de Milly-Laforêt, qu'il commence en 69, auquel collaboreront à peu près une trentaine d'artistes, tous les artistes du Nouveau Réalisme, Jean-Pierre Reynaud, Spoiry, César, Armand, que sais-je, tous ont été là. Et donc, c'est une référence à la mythologie, bien sûr, au cyclope, avec cet œil qui est en fait une lampe qui bouge comme ceci. Il y a, vous vous souvenez d'une image que je vous avais montrée, je ne me rends pas compte si les images sont bonnes. Oui, ça va, hein ? Elles sont bien sur mon écran, mais là, peut-être c'est parce que je suis mal placé. J'ai l'impression que c'est un peu noir, mais bon. C'est un peu noir, non ? Ah ! Non, mais je ne sais pas si on peut les... J'ai toujours eu l'impression que c'était un peu noir, mais j'ai toujours l'impression que peut-être c'est comme ça, hein ? Après tout, de toute façon, il faut toujours que les conférences soient parfaitement déceptives. C'est ce que disait Jørgen Gerz de l'art, parce que si ça comblait complètement, ça ne servirait plus rien de chercher. Hein. Il avait cette idée que, d'ailleurs, nos images... J'avais une fois assisté à une conférence, puisqu'on a un peu de temps, je vous dis. La meilleure conférence à laquelle j'ai assisté, c'était une conférence au musée de Grenoble, l'ancien musée de la place de Verdun. C'était une conférence de Claude Ruteau, vous voyez qui c'est ? Et pendant toute la conférence, alors il nous parlait, alors il y a trois façons de peindre, soit on fait la peinture de la même couleur que le mur, vous connaissez ? Soit on fait le mur de la même couleur que la peinture, soit on peint les deux en même temps. Bon, alors puis il nous expliquait tout. Et alors à la fin, il y avait des questions et tout le monde posait des questions très compliquées. Et pendant toute la conférence, il nous avait passé des photos de lui à la pêche, de catalogues de Manu France avec des hameçons, tous les types d'hameçons et de cannes à pêche. Bon, alors nous, on posait, enfin, moi pas, mais beaucoup de gens posaient des questions dans un esprit sincèrement animé. Et oui, mais alors, si le mur est courbe, est-ce que ça pose des problèmes à la création de la toile, etc. Enfin, des choses importantes. Et puis, à la fin, au moment où on allait tous partir, il y a une dame qui lève la main, très, très, très gentille. Écoutez, je suis vraiment embêté parce que moi, je n'y connais rien. Alors c'est là qu'on avait compris qu'elle allait poser la seule question qui était valable déjà. Elle dit, c'est pas pour vous embêter, mais pourquoi on a vu des cannes à pêche, des trucs pendant toute la séance ? Alors Claude Ruteau se lève. Là, on avait compris que la conférence était terminée. Et il dit, enfin une bonne question. Mais écoutez, le conservateur du musée m'a demandé il fallait que je fasse des images. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je montre ? Il m'a dit, ce qui vous plaît. Et donc, moi, j'adore faire de la pêche, et etc. Et surtout, la philosophie, c'était, il ne faut jamais parler de son œuvre à partir des images. Alors, il nous a dit... La conférence est finie, vous allez dans la salle d'à côté et là, vous pourrez voir mes œuvres. Et ça a été la meilleure conférence que j'ai jamais entendue pour sa fin. Hein, parce que c'était... Voilà, il me semble que là, c'est mieux. Hein, on est moins sombre. Alors, vous voyez, par exemple, ici, on voit très bien que chez Tinguely, donc cette œuvre de 69, en pleine forêt de Fontainebleau, elle fait totalement référence à ce que je vous ai montré de Salomon de Caus dans la première séance, c'est-à-dire ces grottes du XVIIe et du XVIIIe siècle, dès le XVIIe, où on avait ces machineries qui permettaient d'animer les sculptures dans un cadre de jardin. Hein. Vous voyez que l'esprit de la fête foraine, de la grande roue, avec la récupération d'un des tuyaux de Beaubourg qui n'avait pas servi, Donc, et à un moment donné, Tinguely a pu récupérer ça pour faire avec Niki de Saint-Phal une incitation au suicide. Hein. Donc, à un moment donné, vous arrivez à l'intérieur du cyclope qui fait presque, si je me souviens bien, une trentaine. Enfin, en tout cas, Jean-Pierre Reynaud a fait une jauge dehors pour mesurer et pour, dit-il, pour saluer la hauteur de l'entreprise. Hein. Alors donc vous arrivez à un moment donné, puis vous voyez ce tuyau qui vous incite. Alors il y a une chaîne, puis il y a un crâne qui vous interdit quand même, qui vous montre qu'il ne faut pas aller se suicider. Mais c'était l'idée que notre civilisation risquait fort de se suicider si elle n'entrait pas dans une volonté artistique de révolution. Hein. Donc il le montrait nettement. Alors ça, c'est une première série de réintégration que je trouve très réussie depuis Duchamp, Tinguely et autres, de formes d'art populaire qui sont liées à la fête foraine. Je voudrais vous en montrer une autre, ou plutôt vous en rappeler une autre, puisque ce sont des choses très connues. Je vous ai beaucoup parlé de la marionnette, notamment parce que c'est un objet qui m'intéresse beaucoup, mais on pourrait presque parler, je l'avais dit au cours d'une conférence à Palerme, d'un véritable syndrome de Pinocchio dans l'art contemporain, c'est-à-dire qu'en effet, on va voir beaucoup d'artistes qui s'emparent de cette figure de la marionnette, et notamment du fameux pantin de Collodi, pour travailler au plus avant-gardiste de la production artistique. Alors vous vous souvenez d'une des biennales qui avait vu l'œuvre de Annette Messager couronnée. Je crois que c'était 80. Ou est-ce que c'était 2002 ou quelque chose comme ça, non, peut-être 90 ou enfin 98 ou quelque chose comme ça. Bon, je me souviens plus exactement. J'aurais dû le noter. Puis c'est tout dans mes feuilles. J'ai pas eu le temps de récupérer tout ça. Alors on entrait dans ce pavillon français que vous voyez en haut à gauche, que vous connaissez, et là on était invité à parcourir une œuvre qui était composée de trois pièces au sens de trois espaces qui s'appelait Casino. Et cette pièce Casino donc avait valu le grand prix de la Biennale à Annette Messager. Donc je rappelle brièvement, il y avait trois salles. Dans la première salle, après des rideaux blancs, hein, on entrait et on voyait, vous le reverrez tout à l'heure, on voyait il y avait une montagne de polochons, et au milieu, il y avait un polochon sur lequel le pantin, le Pinocchio, était étendu, et une chaîne faisait, mu par un moteur, par tout un système, lui faisait faire un voyage au milieu des polochons. La deuxième salle, que j'illustre notamment par cette photo, était très impressionnante puisqu'elle était entièrement occupée par un voile rouge qui gonflait un peu comme d'autres, qui se gonflait, qui faisait allusion à Pinocchio dans le ventre de la baleine, hein, et descendait imperceptiblement dans le noir des masques comme ceux qu'a dessiné Annette Messager ici, des sortes de masques qui évoquaient à nouveau le pantin. Et dans la dernière salle, dans la troisième salle, en référence à cette gravure de Goya, où l'on voit un pantin désarticulé, vous savez qu'une des pièces de Annette Messager s'appelle Articulé, désarticulé, elle aime beaucoup jouer sur ses poupées, sur ses mannequins, et bien dans cette dernière pièce, dans cette dernière salle, il y avait une sorte de petite machine avec une sorte de socle de caoutchouc et qui projetait avec un ressort, au moment où on s'attendait le moins, des fragments en latex qui évoquaient des fragments du corps. Hein, des jambes, des choses qui étaient souvent dans des sacs plastiques et qui évoquaient une sorte comme ça de soit de destruction, soit au contraire d'animation ou en tout cas d'aléa, puisque nous sommes dans le monde du casino, du jeu, de la vie, du destin. Nous jouons notre vie et c'était un peu ce message-là qui passait. Précisément par la figure du Pinocchio, première occurrence donc dans l'œuvre d'Annette Messager. Et très rapidement, j'avais individualisé beaucoup d'artistes qui eux aussi ont utilisé, alors je ne vais pas détailler, mais on a Jim Dine tout à fait en haut, on a Maurizio Catalan dans cette installation au Guggenheim, où en bas avait été placée une sorte de. En bas de la grande fosse du Guggenheim avait été placée une sorte de piscine et le Pinocchio, vous voyez, était noyé à l'intérieur. Les frères Chapman, qui, dans leur corps, qui sont toujours monstrueux, recomposés, ont utilisé beaucoup la figure du pantin avec le nez qui s'allonge, ou encore, ici, devant la Tate Modern, l'œuvre gonflable, appelée également Pinocchio, de Paul McCarthy. Donc il y a véritablement un syndrome et dans l'avant-dernière biennale d'Istanbul, on voyait même, je vous en montre ici une photo, un film de Val Chocky, Shawky, qui est un artiste qui est né à Alexandrie en 1971. J'aimerais bien le contacter, le faire venir, mais pour l'instant, on a eu un peu de mal. Et il a fait ce film qui était projeté, qui était assez impressionnant, qui s'appelait Cabaret Crusades, The Horror Show File. Donc le cabaret croisade, donc le document du spectacle d'horreur, c'est quelque chose qu'il a tourné en 2010, inspiré par le récit des croisades de Amin Malouf, et avec des marionnettes de la collection Lupi de Torino, de Turin. Des marionnettes qui sont des marionnettes du XVIIIe siècle. Et donc, vous voyez, vous avez à la fois les personnages, vous avez des acteurs qui jouent, et ensuite, c'est filmé. Donc, il y a une sorte de traduction d'un média à l'autre et une sorte d'hybridation des médias. Hein. Et enfin, vous connaissez bien sûr l'aboutissement de ce travail d'Annette Messager qui avait commencé avec Casino, c'est sa grande rétrospective à Beaubourg quelques années après, si je me souviens bien, c'était 2003. Et là, ça s'appelait carrément la balade de Pinocchio. Et on avait dans le forum. On avait dans le forum à la fois cette masse de polochons qui évoquait ce qu'elle avait déjà fait au pavillon de français à Venise, et il y avait des filets avec des énormes fragments du corps humain en latex, hein, latex et escaille. Exactement comme vous faites les poufs, et ces organes tombaient, vous voyez, des des tuyaux de Beaubourg de façon aléatoire et venaient menacer par leur masse, vous voyez, érotique, le pantin qui était lui allongé sur ce bateau polochon qui circulait. Donc on avait ces sortes de gigantesques objets de fantasmes dans des filets noirs d'un rouge très très saillant, très très érotique, qui tombait sur le Pinocchio. Donc là, on a véritablement un sens du spectacle populaire au cœur même de l'institution d'avant-garde. Alors, je vous montrerai aussi quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Vous savez que nous avons montré que ceux qui ont défini la sculpture et qui l'ont fait sans doute aussi pour de bonnes raisons, bien sûr, parce qu'il fallait lui donner une sorte d'identité, eh bien, ont essayé d'écarter du champ de la sculpture tout ce qui était manifestation du type procession. Les sculptures des saints, très fréquentes à Naples ou autres, les processions, étaient strictement bannies. Or, un artiste comme Francis Alice, donc Alys, qui est un, d'ailleurs, faut pas le prononcer comme je l'ai fait à l'anglaise, puisque Francis, il est belge, hein, mais il est installé depuis très longtemps, à dire vrai, depuis les années 70, il est installé à Mexico. Hein. Donc Francis Alice a réalisé en 2002, voyez, ce qu'il a appelé The Modern Procession, la procession moderne. Donc vous voyez sa carte. Il a fait un film d'ailleurs que vous pourrez voir, et il y a eu un livre catalogue édité par le MoMA. C'était au moment où le MoMA avait des travaux, et donc une partie des œuvres, évidemment pas celle-ci, hein, et d'ailleurs celles-ci sont des fausses. Bon, je vais quand même dire deux mots, même si je n'ai pas l'intention de développer et que je vous renvoie plutôt au livre et au film. Eh bien, il y avait des travaux au MoMA, et donc une partie des œuvres ont été stockées dans le Queens. Et donc, il fallait les transférer jusqu'à un stockage qui était de l'autre côté, vous voyez, de Manhattan, et il fallait donc transporter un certain nombre de ces œuvres. Rassurez-vous, enfin, je ne sais pas si ça vous a inquiété, mais ni les Demoiselles d'Avignon, ni la route bicyclette. Alors, il y a un Giacometti aussi, mais il y a une femme debout, il y avait trois œuvres. Donc, Francis Alice a proposé au MoMA, il leur a dit, ben, écoutez, profitons-en, enfin, les œuvres pourront aller dans un quartier moins favorisé. Ah, le grand temple de l'art moderne, le MoMA, pourrait bien prêter, vous savez, c'est l'utopie aujourd'hui du centre Pompidou mobile, c'est ce qu'avait fait aussi Thomas Hirschhorn avec son musée Albinet en transférant des œuvres de Beaubourg à Aubervilliers. Il avait réussi à faire ça. Parce que généralement, on vous emmène des tas de publics captifs, les enfants, par tonnes, dans les musées. Mais généralement, les œuvres ne vont jamais dans les quartiers qui ne sont pas les quartiers les plus favorisés. Donc Francis Alice dit, bien, profitons-en. Là, il y a un problème. Vous devez les stocker ailleurs. Eh bien, on va les faire défiler dans la rue, comme ça tout le monde pourra les voir. Je vous conseille le film, il est formidable. Il y avait devant une fanfare et c'est cette musique que, quand je l'ai projetée à Palerme, ils m'ont tous dit, ah, mais c'est exactement la musique que nous avons dans nos processions. Hein? Donc il y avait un orchestre péruvien qui a joué une marche, et les gens portaient alors des répliques, parce que le MoMA, finalement, au dernier moment, n'a pas voulu prêter les originaux. Donc ils ont fait des répliques, voyez, de la route bicyclette, la fondation Giacometti. Non, c'est pas la fondation, c'est le Kunsthaus de Zurich qui a autorisé de faire une réplique en plâtre d'une femme debout. à condition qu'on la détruise après. Bien entendu, hein, toutes ces œuvres ont été détruites. Et Francis Alice a également tenu à ce qu'une artiste vivante soit portée en procession. Vous la voyez peut-être mieux dans ma photo suivante, ici, c'est Kiki Smith, qui a été portée, vous voyez, comme une sorte de déesse vivante, parce que l'idée, c'était de montrer que les artistes ne sont pas tous morts. Hein. Évidemment, il était difficile de porter Giacometti ou Duchamp, mais on pouvait porter Kiki Smith. Elle a été assez abasourdie, parce qu'elle s'est demandé à la fin ce qu'il lui restait à faire, parce qu'elle avait connu une sorte de sanctification de son vivant. C'était quand même assez choquant pour elle. Elle a été vraiment. Mais alors, dans le film, ce qui est très très bien, c'est qu'on voit le contact, hein, les statues portées. Je vous conseille un livre que j'avais utilisé à ce moment-là de Michel Tournier. Ça s'appelle Le Roi des Aulnes, et il y raconte l'histoire de ce qu'il appelle la phorie. P-H-O-R-I-E, c'est-à-dire quand les gens portent les choses, le Saint-Christophe, etc., qui porte l'enfant Jésus, il y a cette idée qu'on a un autre contact quand on a porté les choses.